Cels.
Ce drame survenu à Ajaccio en Corse où le dernier wagon d'un petit train touristique s'est renversé lors d'un accident de circulation sur la route des Sanguinaires faisant plusieurs blessés. 18 ont été transportés à l'hôpital dont 6 enfants âgés de 2 à 10 ans. Un enfant de 5 ans va subir une intervention chirurgicale. Ses jours ne sont pas en danger. Le conducteur, lui, a été placé en garde à vue. Une ATSEM, assistante d'école maternelle, mise en examen, écrouée pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle sur enfants. Des faits présumés qui se sont déroulés dans la commune de Vic-la-Gardiole dans l'Hérault. Cette femme de 59 ans est accusée d'avoir commis des actes de pénétration digitale et de masturbation sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans et dont elle avait la responsabilité. C'est une plainte déposée en début de mois qui a entraîné l'ouverture de l'enquête et sa suspension. 97,8 milliards d'euros, c'est ce montant faramineux placé en seulement 6 mois par les Français sur leur assurance vie. Un choix porté par le climat économique et la peur de ne pas toucher une retraite décente. Un calcul judicieux qui sera sûrement renforcé puisque le taux du livret A descend à nouveau à partir de ce vendredi, le 1er août donc. Il passera désormais à 1,7% et ce pour les 6 prochains mois. L'Allemagne met la pression à Israël et lance une mise en garde au gouvernement de l'État hébreu. Le ministre allemand des Affaires étrangères a évoqué, je cite, « le désastre humanitaire à Gaza qui dépasse l'imagination face aux menaces d'annexion ouvertement proférée par certaines franges du gouvernement israélien. Un nombre croissant de pays, y compris européens, sont prêts à reconnaître un État palestinien sans processus de négociation préalable, a-t-il rappelé. Et après avoir rencontré Benjamin Netanyahou en Israël, l'émissaire américain va se rendre ce vendredi dans la bande de Gaza afin d'inspecter les sites de distribution d'aide humanitaire et rencontrer également les habitants. Il sera en compagnie de l'ambassadeur américain en Israël et ils ont comme ambition de mettre fin à la crise humanitaire. Sport avec Léon Marchand qui nous fait toujours autant rêver. Après avoir pulvérisé le record du monde lors de la demi-finale du 200 mètres quatre-nage ce mercredi, eh bien Léon Marchand remporte la médaille d'or lors de la finale avec un temps d'une minute 53. Une nouvelle victoire malgré, il faut le dire, une nuit difficile, notamment due à une forte adrénaline qui n'est pas vraiment redescendue de toute la nuit pour le champion. Météo, ce vendredi matin, les nuages domineront sur les régions situées au nord. Des averses sont attendues sur un grand quart nord-est avec quelques coups de tonnerre vers l'Alsace. Au sud, il fera beau, belles éclaircies sont prévues. L'après-midi, quelques nuages d'altitude seront sur la région PACA, Languedoc-Roussillon et partout ailleurs, le soleil composera avec des passages nuageux. Et puis tout de suite, les pronostics d'Alexandre de Koopman pour le Quintet qui a lieu ce vendredi à Cabourg. Le départ est prévu à 20h15 et il vous conseille de jouer le numéro 7, le 9, le 15, le 11, le 5 et le 2. Et l'outsider d'RTL, c'est le numéro 12.
RTL, 24 heures d'info. Jusqu'à 2h, Faustine Bollard sur RTL.
Héros, la rediffusion.
Bonsoir à tous, héros, chaque soir à 20h sur RTL, rtl.fr et en podcast du lundi au jeudi. Nos invités nous racontent leur parcours de vie extraordinaire. Ils nous font partager des anecdotes insolites, découvrir aussi des univers inaccessibles. Et ce soir, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bienvenue sur RTL, tous les soirs à ce micro, nos héros, c'est vous. Notre héros de ce soir s'appelle Mathieu et avec lui, on va pénétrer dans les coulisses de l'hôtellerie de luxe. Mathieu a travaillé dans différents palaces et il a eu l'occasion de rencontrer les plus grandes stars internationales pour le meilleur, mais aussi parfois très souvent pour le pire. Quelles sont les demandes les plus improbables auxquelles il a dû répondre? Il va nous dévoiler les petits secrets de ce monde à part et de cette clientèle, le moins qu'on puisse dire, exubérante. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Exubérante, c'est le mot, cette clientèle était exubérante?
C'est à peu près ça, ouais. Exubérante et... hors sol.
Ah, j'adore l'idée d'avoir des anecdotes sur le hors sol. Pendant combien d'années vous avez travaillé dans l'hôtellerie de luxe, Mathieu?
Quasiment 14 ans.
14 années.
Ouais.
Et en une phrase, vous en gardez quoi comme souvenir ou de quelle manière vous pourriez nous présenter ce pan de votre vie?
Alors, c'était beaucoup de sacrifices.
Beaucoup de sacrifices,
ouais,
c'est beaucoup, la première
beaucoup.
Chose que vous me dites.
Ouais, bah ouais, parce qu'on vit pour les autres au final. Donc, on se sacrifie un peu, on s'amuse. Mais on se sacrifie beaucoup.
C'est-à-dire, vous êtes passé à côté de quoi dans votre vie, Mathieu ?
Je ne pense pas être passé à côté de choses, puisque de toute façon, si je ne les ai pas connues, je ne peux pas savoir ce que c'était. J'ai sacrifié quand même pas mal de ma vie personnelle
Ouais, vous regrettez ?
Non, je ne regrette pas. J'ai vécu ce que j'avais à vivre.
Alors nous, on a plein de questions à vous poser. Avant de rentrer dans le détail de ce métier qui est méconnu, mais qui attise évidemment toutes les curiosités, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui vous a amené à intégrer ce milieu ? Comment vous avez débarqué dans ce milieu si particulier de l'hôtellerie de luxe ?
Eh bien, complètement par hasard au début. Parce que je faisais les cours Florent.
Ah, vous vouliez devenir comédien ?
Ouais. Exactement. Et j'avais besoin d'argent pour payer les cours Florent. Mmh. Du coup, moi, on m'a toujours appris, si tu veux quelque chose, travaille pour l'obtenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un peu de travail autour de moi et j'ai un ami qui travaillait en tant que groom dans un palace parisien et qui m'a dit, viens, on embauche.
Alors, groom, ça veut dire quoi exactement ?
Alors, groom, vous voyez Spirou ?
Mais tout à fait, la tenue rouge avec les gros boutons et le petit chapeau rond.
C'est exactement ça. C'est exactement
ça. Donc, en gros, vous réceptionnez les bagages, vous les montez en chambre.
C'est même pas ça. Groom, c'est juste à la porte au départ.
Pour dire bonjour avec beaucoup de sourire à toute la clientèle. Vous êtes un peu les gardes de la reine devant Buckingham Palace.
C'est un peu ça.
Donc, ils embauchaient des grooms ?
Ouais, et moi, je connaissais même pas vraiment le monde de l'hôtellerie, et encore moins des palaces. À la base, je viens du 93, de la Courneuve, donc c'est un truc très éloigné pour moi. Et je me suis dit, pourquoi pas, essayons. Je sais pas par quel miracle ils m'ont accepté.
Vous êtes très avenant ?
Ouais, mais je pense que je les ai un peu enfumés quand même.
Pourquoi vous les avez enfumés ?
Parce que je parlais pas anglais.
Vous leur avez dit que vous parliez anglais ?
Ouais, mais en fait, ils m'ont posé trois questions. C'était comment tu t'appelles, quel âge t'as et d'où tu viens ? Donc, les trucs qu'on apprend à l'école.
Ah oui, d'accord, je comprends. Donc, ouais. Vous les avez arnaqués total.
Un peu, ouais.
Très bien.
Mais après, j'ai bossé mon anglais pour pouvoir rester, pour pouvoir bien faire mon travail.
Quelle impression vous avez eue quand vous avez débarqué pour la première fois dans un palace ?
Ah mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Je savais même pas que ça pouvait exister, des choses comme ça. Je savais même pas qu'on avait le droit de rentrer dans un palace comme ça.
Ouais. Ah oui, bien sûr.
Alors qu'en fait, tout le monde peut rentrer dans un palace.
Tout à fait, pour aller aux toilettes, par exemple.
Par exemple.
Ben oui, mais ça, non, mais c'est vrai. Hein.
Et d'ailleurs, on doit même vous offrir de l'eau si vous en demandez.
Mais ça, c'est une information. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me dire non. Si je demande de l'eau dans un palace, on me dira oui.
Sur le principe, on peut. Déjà, non, c'est un mot qu'on ne connaît pas dans le métier.
Comment ça, non ?
On n'a pas le droit de prononcer le mot non à nos clients.
Mais genre vraiment, littéralement, vous ne pouvez pas dire non. Quoi qu'on vous demande dans un palace, vous ne pouvez pas dire non.
On ne peut pas dire non.
Alors, vous dites quoi à la place ?
On peut dire qu'on aurait adoré rendre ce service. Malheureusement, il nous est impossible de le réaliser. En revanche, on peut vous proposer une solution alternative.
C'est beaucoup plus chronophage d'aller dire ça plutôt que non, au revoir et bonne journée.
Oui, mais au moins, on ne peut rien en reprocher.
Alors, vous avez commencé en tant que groom.
Ouais.
Après, c'est quoi ? Vous avez grimpé quels échelons ?
Ensuite, j'ai fait un peu de bagagerie et un peu de voiturier.
Ouais.
Et ensuite, on m'a proposé d'intégrer ce qu'on appelle le métier de chasseur.
Alors, ça veut dire quoi, chasseur ?
Alors, chasseur, en gros, c'est quelqu'un qui travaille avec les concierges et les assistants concierges. Et c'est lui qui s'occupe de réaliser les achats pour les clients, par exemple, ou de faire des réservations quand les concierges n'ont pas le temps de le faire, ou quand il y a des
demandes. Seconder les concierges ?
Ouais, c'est un peu ça. En fait, eux, ils sont la tête et moi, je suis les jambes.
D'accord. En gros. Ça peut être quoi, en fait ?
Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un paquet de cigarettes, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être des médicaments. C'est vraiment...
Tout et n'importe quoi.
Ouais, c'est des courses, quoi, tout simplement.
Comment vous avez vécu ce contact avec la clientèle ?
Au début, c'est impressionnant. Parce que...
Est-ce que les gens sont impressionnants ? Il y a quel type de clientèle dans ce genre de palace ?
Ça va des plus grands dirigeants, à des stars, à des grands hommes d'affaires.
Qu'est-ce qui est impressionnant ? Leur charisme, c'est quoi ?
Alors, ça dépend qui. Mais c'est surtout déjà, il y a une attitude à adopter, il y a une posture à adopter, un langage à adopter.
Mais ça, on vous l'apprend ?
On est censé l'apprendre, déjà, on est censé un peu le savoir quand on va travailler dans ces établissements-là, quand on passe par le cursus normal, ce qui n'était pas mon cas. Et donc après, on l'apprend un peu sur le tas, et puis nos collègues sont là pour nous aider aussi.
C'est-à-dire une tenue, un port de tête ?
Oui, exactement. C'est exactement ça. Surtout dans le premier hôtel où j'étais, où c'était très, pour le coup, très militaire, on va dire, dans
la posture.
Ouais, voilà, c'est protocolaire. Et du coup, là, on est obligé d'apprendre toute la bienséance, comment se comporter, tout ça, quoi.
Vous aviez le droit d'être coiffé comme ça, parce que je voudrais
absolument
dire, évidemment, vous avez une queue de cheval avec les cheveux longs, une queue de cheval un peu perchée, vous savez, un kiki ou un palmier. À l'époque, vous étiez comment ? Beaucoup plus tragique, parce que vous avez des tatouages partout. Enfin, j'avais même pas vu des bagues de rocker.
Les tatouages, je les avais déjà, mais ils étaient cachés. Donc ça, c'était pas un problème. Il fallait avoir les cheveux courts et pas de barbe.
Ah oui, donc là maintenant, vous êtes en rébellion aujourd'hui. Vous avez une barbe, les cheveux longs, tous les tatouages et vous êtes en short.
J'étais en prison pendant des années. J'ai dit non, maintenant je fais ce que je veux.
On va se retrouver dans un instant, mais d'abord juste dites-moi dans combien de palaces vous avez travaillé ?
Deux.
Lesquels ?
Ah, ça, je préfère pas le dire.
Pourquoi ?
Il n'y a pas de secret professionnel, mais il y a quand même, on est soumis à discrétion, donc je préfère.
Même des années plus tard ?
Ouais, parce que, bon, c'est...
Mais moi, je vais vous poser des questions super indiscrètes, Mathieu.
Oui, mais c'est pas grave, parce que je serai jamais dénigrant.
Alors, attendez, je sais que Maria Carré n'est pas votre meilleure amie. On en parle dans quelques instants sur RTL. Vous pouvez également nous écouter en podcast avec Héro. Et on se retrouve avec Mathieu dans un instant.
Ressemble un peu à un dimanche. Sur le siège avant, le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure.
On de la traconte, la suite de votre récit.
Cette enquête titanesque est impossible à raconter dans le détail. Je m'y perdrai, et vous avec moi. À ce jour, Francis Holm a été condamné pour 11 meurtres. Son premier meurtre, il le commet à l'âge de 25 ans dans sa région, l'Est. Et je vous raconterai tout à l'heure son histoire personnelle et intime. Ce premier meurtre, il le commet 3 semaines après la mort de sa maman. Dans la forêt de Pluvenel, aux environs de Pont-à-Mousson, le 6 novembre 1984, un garde forestier découvre un corps. Une jeune fille, dans les 16-17 ans, nue, face contre terre. Elle a été étranglée et porte 3 coups de couteau au niveau de la gorge. Elle s'appelait Lionel Gineste. Elle avait en vérité 17 ans. Et elle était belle comme un cœur. L'autopsie a lieu le lendemain. Bon, première chose, elle a été violée. Ou alors elle a eu un rapport sexuel juste avant, mais pour moi c'est plus spécialement un viol, hein. Et puis ça va vous intéresser, je pense qu'ils étaient deux. Je vous explique. L'un d'entre eux l'est d'abord étranglé, avec une cordelette, hein, en tirant d'une main de chaque côté. Vous voyez le sillon là, et là? Elle a essayé de se sauver en mettant sa main sous la gorge. Vous voyez là, on voit clairement la trace de sa bague sous son menton. Et là où je dis qu'ils étaient deux, c'est qu'en parallèle, elle a aussi été égorgée avec un couteau. Or, celui qui l'étranglait avait les deux mains prises. Donc, ils étaient forcément deux. Cette enquête va durer 10 ans, sans la moindre piste, jusqu'en 1994. Cette année-là, un inspecteur de la police judiciaire de Nancy découvre en lisant le journal l'existence de ce Francis Holm qui vient d'être jugé à Brest pour le meurtre d'Aline Pérez. Et il s'aperçoit que le gars est du coin. Holm est de Metz. Alors il appelle le gendarme à Bgral, en Bretagne. Dites-moi, je me demande s'il n'est pas impliqué dans une affaire que j'ai sur les bras là depuis 10 ans. Une affaire de novembre 84. Vous savez s'il était dans la région à l'époque?
Attendez, décembre 84, vous dites? Bah oui. À l'époque, Francis Holm travaillait dans une entreprise de travaux publics à Pont-à-Mousson.
L'inspecteur le fait extraire de sa prison, il le place en garde à vue, et là il découvre le bonhomme, avec son menton en galoche, son drôle de visage immobile, il n'y a que la bouche qui bouge, et ses yeux capables de vous fixer sans jamais scier, jamais. Monsieur Holm, dites-moi, est-ce que vous connaissez la forêt de Pluvenel, à Montauville? Vous connaissez? Si je connais? Oh. Bah oui, je connais. Bah, bien sûr, j'ai fait du vélo là-bas. Il vient de faire un premier pas. À la deuxième audition, Holm en fait un de plus. Bah, cette fille-là, on l'a prise en stop. Mais on l'a déposée chez elle après. Et c'est à la troisième audition qu'il dit tout. Bah, elle a monté dans notre voiture. Et puis quand le conducteur a tourné à gauche, bah, elle a crié, c'est pas là. Moi, je l'ai maintenue pour qu'elle sorte pas, quoi. Puis on a roulé dans la forêt. C'est pas moi qui l'ai tué, c'est l'autre. Moi, je suis resté dans la voiture. J'ai écouté la radio jusqu'à ce qu'il revienne. Au bout d'un quart d'heure, je l'ai entendu, il a crié « Casse-toi, salope !» Puis, voilà, on est reparti. Il donne le nom de son complice au juge d'instruction. Il l'a connu sur un chantier, il s'appelle Joseph Molins. Ce Molins est arrêté, il reconnaît les faits, mais pas du tout le scénario. « Mais moi, j'ai fait de la violer !» Ben c'est lui qui l'a tué. C'est son premier meurtre. Il ne pourra jamais plus s'arrêter de tuer. Son deuxième meurtre, chronologiquement, vous le connaissez plus que les autres. C'est le double meurtre de Montigny-les-Metz, toujours dans l'Est. Le meurtre pour lequel Patrick Dils a passé 15 ans en prison pour rien. Le 28 septembre 1986, vers 17h, deux petits garçons de 8 ans, Cyril Benning et Alexandre Bécriche, vont jouer sur un talus qui borde une voie de la SNCF, près de chez eux. On les retrouve un peu après 19h, le crâne fracassé à coups de pierre. On a cru que c'était Dils, c'était Francis Holm. Holm commet son troisième crime 7 mois plus tard, en avril 1987, près de Metz, à Augy. Il est avec deux compères qu'il a rencontrés dans un centre de désintoxication. Il est 4h45 du matin. Ils sont bourrés comme des coins. Et là, ils croisent la route d'Annick Maurice, qui travaille au supermarché de Wapi et qui va embaucher. Holm et les deux autres l'attendent à la sortie d'un petit tunnel. Et on retrouve le cadavre d'Annick, 6 mois plus tard, au bord de la Nationale 3. Il l'a frappé à la tête et finalement étranglé. Holm récidive 14 mois plus tard à Charleville-Mézières. Il poignarde Guylaine Ponsard, 61 ans, et Georgette Manès, 86 ans, qui le surprennent en train de cambrioler leur maison. 10 mois plus tard, en avril 1989, Holm est à Port-Grimaud, sur la Côte d'Azur, en hôpital psychiatrique. Devant un camping, il est avec un complice, on n'a jamais su qui. Il croise un petit Belge de 10 ans, Joris Vivine. « Dis-moi, gamin, quelle heure qu'il est, là ?» Mais le gamin est belge, il est flamand, il ne comprend pas la question. Holm l'emmène, il l'étrangle et il le frappe 83 fois à coups de tournevis. 3 semaines plus tard, il tue Aline Pérez sur la plage près de Brest. Et encore 2 mois plus tard, Sylvie Rossi, près de Reims, à coups de pied et de poing. Deux ans plus tard, en mai 1991, le routard est rentré chez lui près de Metz. Il croise la route d'une gamine de 14 ans, Laurence Guillaume, qui rentre chez elle à scooter. Holm est avec le cousin de cette gamine. C'est le cousin qui la viole, et c'est Holm qui la tue. son dernier meurtre, Holmes le commet 7 mois plus tard, à Boulogne-sur-Mer. Jean Rémy, 65 ans. Il le poignarde et il le pousse du haut d'une falaise. Pardon, hein, pour cette insupportable litanie de meurtre. Mais qui est ce routard qui tue avec une sauvagerie sans limite? Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, sans mobile, jamais, sans les violer lui-même. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? À la recherche du pourquoi, on commence par solliciter des psychiatres. Et à côté de ça, on mène une enquête approfondie dite de personnalité. Comment s'est fabriqué cet homme qui n'est pas fou? Enfin, c'est ce que disent les psys. Mais qui tue comment respire? Commençons par ses parents. Les parents façonnent leur enfant. Francis Holmes, né en 1959, est le fils aîné de Nicole et Marcel Holmes. Elle est femme de ménage, il est électricien et alcoolique, et violent. Il bat sa femme et il est très dur avec Francis et avec Christine qui naîtra 7 ans plus tard. Ils n'ont pas le droit d'avoir des amis, par exemple. En revanche, Holmes dit que sa maman est une sainte. Ce qu'elle n'est pas, elle l'aime. Mais elle n'est pas une bonne mère. D'abord, elle picole, elle aussi. Et surtout, elle le néglige. Et elle est absente, il est livré à lui-même tout le temps. Il y a une scène terrible dans le rapport de l'enquêteur de personnalité. Quand il a faim, le petit Francis va chez l'épicier. Et vous savez ce qu'il achète avec ses petites pièces jaunes volées de ci, de là? Du ronron, de la pâté pour chat. Du coup, tout le monde l'appelle Félix le chat, ou Félix tout court. Et ce surnom, Félix, il l'a adopté, et même revendiqué. Et d'ailleurs, quand on l'arrête, beaucoup de gens ne savent pas qu'il se prénomme Francis. Pour eux, c'est Félix. À côté de ça, assez petit, on détecte chez lui un retard intellectuel et une tendance à s'isoler. À l'école, dans la cour, il est toujours tout seul. Il passe ses récrés appuyé contre un mur. Il ne parle pas aux autres. Sa grande passion, ce sont les maquettes. Un truc qu'on fait tout seul dans sa chambre. Et puis régulièrement, il fait des crises de nerfs. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle ça à l'époque. Et il s'automutile. Il se taillade la joue, ou il se cisaille le bras avec un couteau, et puis il se met à boire de la bière, des litres de bière. Ce qui va l'amener plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. À part ça, il est miro, il voit mal. Mais enfant, chez lui, personne ne s'en est aperçu. C'est l'un de ses employeurs, un jour, qui lui a conseillé d'aller voir un ophtalmo. Et là, il a chaussé des lunettes pour la première fois. Et il a découvert que le monde était plus net qu'il ne l'imaginait. Francis Holmes a 25 ans. Quand sa maman meurt d'un cancer, à l'âge de 44 ans, c'est sa sœur qui le lui annonce.
Francis, maman, elle est morte.
Et là, il s'empare d'une soupière. Et il la brise. Sa sainte mère est morte. Son monde s'effondre. Et quant au funérarium, on veut fermer le cercueil. Il ne veut pas. Et quant au cimetière, on descend le cercueil dans le caveau. Il veut se jeter dedans. Il faut le retenir. Et dans la foulée, il fait 2 tentatives de suicide. Il faut l'interner à l'hôpital psychiatrique. Et 3 semaines après la mort de sa maman, il commet son premier meurtre. Donc, entre un père violent et sa mère qui l'aimait mais ne savait pas faire, il avait un sac à dos, comme on dit. Une histoire difficile à porter. Mais est-ce qu'il a par ailleurs un handicap psychiatrique? L'un des psychiatres experts qui l'examine, le docteur Jean-Michel Masson, l'un des meilleurs de l'époque, va trouver quelque chose d'inattendu. Quand il le voit arriver, en prison, il est très surpris par sa morphologie. Son corps d'adolescent, son torse très plat, ses hanches très larges. Alors il prend une initiative qui est assez rare chez un psychiatre.
Venez là, monsieur Holmes, venez. Je vais vous examiner. Vous pouvez enlever votre pantalon?
vous inquiétez pas, hein, je vais juste baisser votre slip. Voilà.
Et là, le docteur Masson constate qu'il a de tout petits testicules. Des testicules atrophiés. Et ça, plus le corps d'adolescent, eh bien c'est le signe d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Klinefelter et qui se traduit par un excès de féminité. Sur le plan génétique, Holm n'est pas totalement un homme. Il a deux chromosomes X pour un chromosome Y. Il est intersexe et probablement par ailleurs homosexuel refoulé. La maladie de Klinefelter dont il souffre explique son drôle de physique, son retard intellectuel dans l'enfance, ses problèmes de vue aussi, son manque de maturité et son impulsivité, ses fameuses crises de nerfs. Il a fait le tour des hôpitaux psychiatriques pendant toute sa vie. Personne n'a jamais détecté sa maladie. Mais attention, ça ne fait pas de lui un irresponsable pénal. Ça ne va pas empêcher de le juger pour ses 11 meurtres. Ça n'entre pas dans la catégorie des maladies qui dispensent de la cour d'assises. Maintenant qu'on sait qui il est et ce qu'il a fait, un tour de France commence, un autre tour de France. Le tour de France des tribunaux. Il va falloir près de 23 années pour juger Holm complètement. Premier procès en 1994 à Quimper. L'affaire par laquelle tout a commencé, le meurtre d'Aline Pérez sur cette plage près de Brest. C'est la première fois que le public, pour qui il est devenu le tueur en série française.
Au Canada, on voit bien qu'il y a un mouvement global d'une solution qui est certes à deux États, mais qui est aussi dans une logique de dialogue. Donc en fait, alors que c'est un sujet qui est extrêmement clivant et que les discussions sur les réseaux généralement sont plus qu'avec des positions tranchées, eh bien on voit qu'aujourd'hui, en particulier, parce qu'il y a beaucoup d'images de ce qui se passe sur place, fait que l'opinion publique est vraiment en train de basculer. Donc le général a raison, et au-delà des politiques qui sont en train de basculer, l'opinion est en soutien réellement et demande aujourd'hui que ces deux États existent, même s'il y a des voix de chaque côté qui expliquent qu'un seul État serait plus logique. Mais on voit bien que la raison est là. Et de nouveau, ce mouvement Land for All monte vraiment et est intéressant à suivre.
Minuit 6h, c'est la nuit sur France Info.
Faut que ce soit désinvolte.
Sous un chapeau de paille. Siffle un jus de papaye avec paille.
Et c'est Seigneur le Boy.
Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Aïe aïe aïe. Il y a des couillonnes qui parlent d'extradition. Mais pour moi, pas question de payer l'addition.
Et c'est Seigneur le Boy.
Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles. Que j'aille.
Et c'est Seigneur le Boy.
sous un chapeau de paille. Je siffle un jus de papaye avec paille.
Et c'est Seigneur le Boy.
J'ai gardé de mes batailles croix gammée et médaille en émail. Toujours ce goyenne qui parle d'extradition.
France Info.
L'info juste.
1h30 sur France Info, le flash Victor Costa-Mounier. Ce n'est pas la fin de l'histoire. L'espoir de François Bayrou ce jeudi soir, alors que les droits de douane américains entrent en vigueur ce vendredi 1er août. Pour l'heure, les vins et spiritueux ne sont pas exemptés de ces taxes de 15% fixées par Donald Trump, même si le gouvernement français dit continuer à négocier. 4 blessés en urgence absolue, dont 2 enfants et 18 blessés légers. Dans un accident de petit train touristique, ça s'est passé ce jeudi à Ajaccio, en Corse. Selon le maire d'Ajaccio, Stéphane Sbraggia, il semble que la vitesse soit à l'origine de l'accident, mais aussi l'itinéraire emprunté qui n'était pas celui prévu. Le chauffeur du véhicule âgé de 70 ans a, lui, été placé en garde à vue. Sur France Info, ce jeudi soir, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté pointe du doigt une situation qui s'aggrave dans les prisons françaises. Il manque 6000 surveillants, 1000 agents d'insertion et de probation dans les services pénitentiaires. Il y a toujours plus de détenus, dit Dominique Simoneau, alors que le ministère de la Justice a publié ce jeudi les chiffres d'incarcération. Nouveau record pour les prisons françaises avec 84 951 détenus pour 62 509 places opérationnelles, soit un taux d'occupation de 136%. 1000 bovins ont été abattus en Savoie et en Haute-Savoie depuis un mois pour lutter contre la dermatose, a indiqué ce jeudi le ministère de l'Agriculture. Les chiffres revus à la hausse par les syndicats agricoles, la Confédération paysanne parle de 1500 bêtes abattues, 2000 pour la coordination rurale. Un tiers des 310 000 animaux concernés ont quant à eux été vaccinés contre cette maladie contagieuse pour les bovins, mais pas pour l'homme. Après le Canada mercredi, le Portugal ce jeudi a dit envisager reconnaître l'État de Palestine. Le Premier ministre Luis Montenegro a fait savoir qu'il allait consulter les principaux partis politiques du pays ainsi que le président à ce sujet. Donald Trump a qualifié d'écœurante la dernière vague d'attaques russes sur l'Ukraine après des bombardements sur Kiev ayant fait au moins 16 morts et confirme qu'il va bien prendre des sanctions contre la Russie. Je ne sais pas si cela va avoir un impact, mais nous allons le faire, dit-il ce jeudi soir. Le président ukrainien a lui appelé les soutiens du pays à œuvrer à un changement de régime en Russie. Volodymyr Zelensky, qui a promulgué ce jeudi une loi rétablissant l'indépendance d'instances anticorruption. Au mois de juillet, le Parlement avait en effet voté un texte plaçant l'Agence nationale anticorruption sous la tutelle du procureur général, lui-même nommé par le président. Un revirement réclamé dans la rue par d'importantes manifestations ces dernières semaines. Victor Osimhen à Galatasaray, c'est fait. Le footballeur nigérian, attaquant à Naples jusqu'ici, a signé ce jeudi pour 4 saisons avec le champion en titre de Turquie. Montant du transfert, 75 millions d'euros. Le joueur touchera lui 15 millions d'euros de salaire par saison et évoluera aux côtés de Mauro Icardi et Leroy Sané.
Minuit 6h, c'est la nuit sur France Info. Les informés, Hélène Zellani.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Je rappelle que nous sommes toujours avec Véronique Reissoult, présidente de Backbone Consulting, maître de conférence en communication de crise à Sciences Po. François Annenwein, conseiller éditorial au journal Réforme. Jérôme Cordelier, rédacteur en chef au Point. Adrien Brachet, journaliste politique au Point. Adrien, on disait tout à l'heure que sur les réseaux sociaux, il y avait ce nombre de messages extrêmement importants. Hein, une population, en tout cas des personnes sur les réseaux sociaux très en faveur de la reconnaissance d'un État de Palestine. Est-ce qu'on pourrait dire que la décision annoncée par Emmanuel Macron, elle a aussi pour but d'aller dans le sens de ce que veulent les Français ? Est-ce que c'était aussi une manière d'obtenir, dans une certaine mesure, l'assentiment des Français dans un moment où il n'a pas une très bonne cote de popularité ?
Alors oui, c'est un peu ce que racontent Julien Perron et Mathilde Sirot, qui sont nos deux journalistes du Point, qui font un récit cette semaine semaine dans le Point sur les évolutions d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Et ils expliquent qu'en effet, Emmanuel Macron a bien senti qu'il y avait une forme de très forte sensibilité de l'opinion et de plus en plus forte à ce qu'il se passe à Gaza, la tragédie à Gaza. Et donc, c'est probablement aussi pour des raisons de cette montée de l'opinion qu'Emmanuel Macron le fait maintenant. Vous l'avez dit en plus à un moment où sa cote de popularité est assez faible. Et de manière générale, je pense qu'il y a aussi la volonté de la part d'Emmanuel Macron, si on se place sur un plan très, très politicien, de rester un président qui agit, qui laisse une trace. Il est à 2 ans de la fin de son mandat. Et donc, je pense qu'il y a aussi la volonté géopolitiquement de montrer qu'il sait encore peser. En effet, à un moment où les opinions publiques se montrent particulièrement sensibles à ce sujet.
Voilà. Alors, j'aimerais aussi qu'on revienne maintenant sur un sujet qu'on a un petit peu abordé lors de ce débat. Cette histoire de droits de douane, cette histoire de poids des Européens dont beaucoup disent qu'ils se sont couchés devant Donald Trump. Demain, 1er août, on rappelle que l'accord commercial entre les États-Unis et l'Union Européenne devient une réalité. 15% de taxes sur la grande majorité des exportations européennes, par exemple l'automobile, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques. Il y a quand même quelques exemptions prévues. François Bayrou est revenu cet après-midi sur ce sentiment qu'il a déjà exprimé face à cet accord.
Le sentiment d'insatisfaction que j'ai exprimé, il est aujourd'hui assez généralement repris, non seulement par les autorités françaises, mais l'extérieur. Pourquoi ? Parce que nous avons assisté précisément à ce contre quoi l'Europe était construite, c'est-à-dire l'idée que une puissance aussi importante que les États-Unis peut décider que d'autres pays vont devoir se soumettre à sa loi. C'est pas comme ça que les relations internationales doivent marcher. Ça n'est pas l'injonction des uns et l'obéissance des autres. Est-ce que c'est la fin de l'histoire ? Je ne le crois pas.
Jérôme Cordelier, quand vous entendez
sûr,
François Bayrou.
Maintenant, la balle, si je puis dire, est dans le camp des Européens. C'est-à-dire que dans un rapport de force, évidemment, il ne faut pas se lamenter de... Voilà, évidemment, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe, si je puis dire, quand il voit une telle soumission. Hein, le Premier ministre a employé ce terme, soumission. Mais François Bayrou, qui a le sens de l'histoire, qui était professeur d'histoire, qui est aussi démocrate chrétien, qui est dans le prolongement de cette histoire de ceux qui ont fait l'Europe, hein, le MRP, enfin, ces démocrates chrétiens catholiques, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman, pardon. Donc, tous
c'est
ces gens, il est dans le prolongement de cette histoire, François Bayrou. Donc, il sait très bien qu'il faut aussi un sursaut à la fois spirituel au sens large, c'est-à-dire donner du contenu à cette Europe, et que ce n'est pas uniquement une question technique, politique, aussi politique et technique, mais aussi, ça vient de plus loin, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut que cette Europe, elle soit habitée. Il faut que ce soit un corps habité par une volonté commune. Et encore une fois, on est quand même sur un continent qui a énormément de choses à produire de ce point de vue-là. C'est ce que disait Marc Fumaroli, enfin pardon de faire mon intéressant, mais c'est ce que disait Marc Fumaroli sur justement on n'a pas misé assez sur l'éducation, la culture, l'histoire, tout ce patrimoine. Les Américains, on parle de soumission à Donald Trump, mais les citoyens américains, ils viennent en vacances actuellement en Europe et particulièrement en France pour aller dans les cathédrales, dans les églises, dans les abbayes, et puis profiter de la gastronomie.
Les Américains et Donald Trump, c'est deux choses bien différentes.
Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça part de là aussi. C'est-à-dire que la politique, ce n'est pas quelque chose de militaire. En tout cas, pas seulement.
François Ehrenweim, c'est une fois de plus ce qu'on évoquait hein, tout à l'heure. C'est les Européens qui ont du mal à s'unir et à faire bloc face à Donald Trump.
Je suis d'accord à la décimale près avec ce que vient de dire Jérôme. La profondeur historique, le continent européen, c'est une histoire riche et puissante. Donc, ce continent doit se réveiller. Cesser d'accepter les humiliations qu'on lui impose sur le plan commercial avec les Chinois et puis maintenant dans les comportements de Donald Trump. Effectivement, il y a un capital, pour parler en affairiste, mais je dirais plutôt un trésor au cœur de l'Europe. Et c'est ce trésor qu'il faut aujourd'hui valoriser. Mais ça, c'est une stratégie à plus long terme. Je voudrais faire remarquer que dans la lamentation sur l'accord injuste autour des droits de douane pour l'Europe, eh bien, si on prolonge la courbe, les Américains vont aussi subir les conséquences de ces droits de douane élevés. En termes d'inflation, notamment, en perte de pouvoir d'achat pour les Américains et aussi des licenciements. Quand vous avez des activités qui importent des produits beaucoup plus chers, ces activités faiblissent. Il y a eu des reportages plein des télés sur les marchands de vin américains qui disent on va plus y arriver, on va licencier. Donc, c'est pas le monde féerique de Donald Trump pour les États-Unis et l'horreur pour le reste du monde. La stratégie de Donald Trump, j'insiste là-dessus, est une stratégie destructrice parce qu'elle efface le multilatéralisme et les coopérations qui accompagnaient le multilatéralisme. On est en train de détruire ce que le monde entier a construit après 1945. Et là, il s'agit d'être sérieux. C'est-à-dire, il faut installer des digues et des barrières à cette folie destructrice. Quand vous avez un casseur dans votre studio, bah vous le sortez. C'est un peu pareil sur la scène internationale.
Ça va, pour l'instant, je n'ai que des personnes extrêmement bien élevées autour de moi qui ne s'interrompent bien, pas, voilà. Et qui nous racontent des choses absolument passionnantes. Véronique Reissoult, Emmanuel Macron a dit cette phrase qui a fait beaucoup réagir en Conseil des ministres. L'Europe ne se vit pas encore suffisamment comme une puissance pour être libre. Il faut être craint.
Alors c'est exactement la phrase. Enfin, il y a deux phrases qui ont été très reprises par l'opinion publique. Il y a celle-ci et une autre sur M. Trump. Les gens sont souvent d'accord avec vos propos, mais disent qu'il a quand même fait très fort parce que quand vous annoncez 50 et que vous dites finalement ça sera 15, oui. Dans le fond on est presque content, ce qui est limite quand même. Mais le fait qu'on ne soit pas craint, c'est l'un des éléments qui ont été le plus repris et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'opinion publique est assez alignée avec les propos du président, même si sa popularité ne remonte pas pour autant, mais il y a une forme d'alignement. Pourquoi ? Parce que les uns et les autres ont le sentiment qu'on est dans une forme d'impuissance. Alors vous pointiez la désolidarité des pays entre eux, chacun ayant été négocié souvent au cas par cas, mais il y a une désolidarité aussi en interne, c'est-à-dire que chaque secteur commence à négocier au cas par cas. Et donc en fait, les Français ont l'impression que l'Europe ne les protège pas tant que ça. Donc quand je regardais les messages, ils sont à 80% négatifs sur l'Europe. Et aussi, le fait que nous n'arrivons même pas à nous aligner nous-mêmes en interne, chacun essayant de défendre son pré carré. Donc ça provoque beaucoup de colère et un sentiment d'impuissance très fort, et les uns et les autres disant qu'effectivement on ne peut gagner dans ce genre de situation que si on est craint et qu'on ne voit pas comment on peut être craint avec ce genre de désalignement.
Oui, ce qui est très compliqué dans ces négociations aussi, c'est que tous les pays européens n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Notamment, vous avez certains pays, je pense à l'Allemagne et à l'Irlande, qui sont extrêmement dépendants de leurs exportations vis-à-vis des États-Unis. L'an dernier, l'Allemagne, pour vous donner une idée, a exporté 161 milliards d'euros de marchandises vers les États-Unis. C'est 47 pour la France. Donc vous avez des pays comme l'Allemagne ou l'Irlande qui avaient notamment beaucoup plus intérêt à ce qu'il y ait un accord, même du moindre mal, pour pouvoir préserver leurs industries, notamment pour l'Allemagne, l'industrie automobile. Alors vous aviez d'autres pays comme...
I have to. deux heures.
Nosta Beach Party sur Nostalgie.
Please don't go. 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 Please don't go.
Babe, I love you so.
Please don't go.
I want you to know.
Please
that I'm gonna miss your love.
Please
the minute you walk out that door.
Please don't go.
Tous les soirs de l'été,
22h-2h,
Nosta Beach Party.
I'm not.
Nosta Beach Party.
Tous les soirs, 22h, 2h.
Sur Nostalgie.
Télérama qui non. peut dire si c'est un bon film ou un mauvais film.
Ah oui,
film.
Parce que sinon,
c'est... Et pendant des années,
Jérémy,
il y avait
bonjour.
Que Télérama. Mais c'est très bien les avis sur Allociné.
Alors,
bien.
Jérémy, racontez-nous, puisque vous nous dites, vous avez été employé par une société, vous, hein, qui vous demandait de produire des avis, en fait.
Oui, effectivement, j'ai travaillé pendant 15 ans pour une société de construction de maisons individuelles qui nous demandait clairement de créer des faux avis Google, donc forcément nous avantageant par rapport à la concurrence, de gagner des parts de marché.
D'accord. Ça se passait comment alors? Racontez-nous les dessous, les coulisses.
Mais tout simplement, on prenait une matinée dans la semaine où c'est qu'on avait pour objectif de créer 5 nouveaux comptes via Internet et donc on allait mettre un avis positif sur mon entreprise en disant que voilà, on faisait du bon travail, que le suivi était sérieux, le commercial était très bon. Du coup, ça nous ramenait de nouveaux prospects qui nous permettaient de signer de nouveaux contrats.
Ah oui, d'accord. Et au bout d'un moment, vous avez arrêté?
Ben, effectivement, quand on commence à avoir 15, 20, 30 avis, au bout de 2, 3 mois, ça commence à faire beaucoup. Donc, forcément, la direction nous disait, écoutez, on lève un peu le pied, mais on reprendra un peu plus tard.
D'accord. Voilà. Et c'est cette société, ce qu'elle fait, donc, c'est parfaitement dégueulasse, mais c'est légal.
Légal.
C'est légal et c'est surtout que c'est courant, quoi. Tout le monde fait ça. Donc, on faisait pareil.
Ah ouais, tout ça pour débiner la concurrence, quoi, en fait.
Exactement.
Jérémy, on va justement continuer d'en parler dans le Tarn avec Johan qui est pizzaïolo. Bonjour Johan.
Bonjour.
Alors, bonjour, vous avez eu des faux avis, Johan?
Oui, j'ai eu un faux récemment.